rappelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois encore, merci de votre fidélité. À parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Dans un rapport rendu public début septembre dernier, l'Observatoire des dépenses publiques, ODEP, révèle qu'entre 2016 et juin 2018, la CENI n'a reçu qu'un montant de près de 500 millions de dollars sur les totales de montants des dépenses prévues pour les élections. Il reste donc pour la CENI encore près de 500 millions, soit près de la moitié du budget pour couvrir les dernières dépenses liées notamment à la formation des agents électoraux ainsi que le déploiement des kits liés à ce scrutin. Certains analystes estiment que la CENI ne saura faire face aux coûts d'investissement restants. D'autres pensent les contraires. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 6330 ou encore au 09 97 06 4969 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Pierrot et la Mégie est à la réalisation de cette émission. Jean-Claude Siala assure sa mise en onde sous la supervision de Martin Sebujangwe. Ce magazine est coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons dans ce studio professeur Florimond Mouteba qui est avec nous pour en parler. Professeur, bonjour.
Bonjour, J.R.
Alors, vous êtes le coordonnateur de l'ODEP, le président de l'ODEP. Mmh. Est-ce que les processus électoraux à la RDC entament sa ligne droite avant le 23 décembre? Quel est le constat que vous avez fait? Et nous signalons que tous les lundis, nous accompagnons les processus électoraux. Nous aurons aussi tout au long de l'émission Jean-Pierre Kalamba pour au fait en parler. D'abord, quel est le constat que vous avez fait?
D'abord, je vais insister beaucoup, bien sûr, sur la question de financement. Je voudrais donner des précisions sur les chiffres. C'est-à-dire que les besoins totaux exprimés par la CENI dès le départ étaient de 1,333 milliards, donc pour l'ensemble du processus. La première phase, c'est-à-dire celle que nous attendons le 23, avec les présidentielles, législatives, provinciales et nationales, on avait besoin de 928 millions de dollars. Et la deuxième phase, c'est-à-dire celle après le 24 décembre, avec les élections locales, avec les élections indirectes, on a besoin de 405 millions de dollars. À ces jours, les fonds reçus par donc la CENI sont un total de 652 millions de dollars, oui, 652 millions de dollars. Mmh. Aujourd'hui, les besoins exprimés pour l'année en cours étaient de 132 millions. Mmh. Et dans ces 132 millions, 143 millions seulement ont été donc donné à la CENI. Donc il reste 289 millions qu'il faut donner à la CENI pour boucler la première phase, c'est-à-dire les élections présidentielles et les élections
législatives et provinciales.
Exactement.
Alors, je voudrais aussi 289 millions.
289 millions. Je voudrais souligner aussi une chose. Il faut savoir que d'ici le 23 décembre, il reste 55 jours ouvrables. Bon, on va me dire que la CENI travaille le samedi, le dimanche. Oui, mais ses partenaires ne travaillent pas le samedi et le dimanche. Ça, ni en Europe, ni en Asie, ni ici. Donc, il faut compter qu'il reste 55 jours. Et en 55 jours, il faudra que la CENI puisse avoir ses moyens. Et avec ses moyens, la CENI doit pouvoir déployer
tous les moyens logistiques qui vont permettre de faire les élections. Notez que on estime le nombre de bureaux de vote à 76 millions. Mmh. On estime le nombre d'agents électoraux à 650 millions. On estime que s'il faut utiliser la machine à voter, il en faudra 105 000. Alors, il y a tout un plan de déploiement qui, mmh, pour l'instant, que ce soit pour la livraison à la CENI.
Donc ça a un coût.
Tout cela a un coût. Mmh. Ah, tout cela a un coût. Mmh. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la CENI dispose, selon les données que nous avons, de 7 avions, 130 camions, 197 pick-up. Alors que, à l'époque, la MONUSCO avait proposé son aide. Et la MONUSCO peut aujourd'hui disposer de 24 avions. Vous voyez, par rapport à 7. La MONUSCO peut encore disposer de 83 millions de dollars pour appuyer. Et donc, il faudra savoir les choix qu'il faut faire pour pouvoir, cela. Voilà. Donc, pour les chiffres précis, et concis, sur lesquels nous devons...
Alors sans avoir peur d'être contredit, à croire vos propos, c'est qui veut dire que la CENI a reçu également des fonds non engagés.
Ah oui, tout à fait, parce que sur les 652 millions, 484 millions sont déclarés par le gouvernement, comme quoi il a donné, mais dans le total... qui est déclaré par la CENI, on arrive à 652. Ça veut dire que il y a 169 millions de fonds non engagés. Donc il a reçu d'où, on ne sait pas. Et donc voilà un peu, ça c'est pour la réalité. D'ailleurs, nous verrons plus loin que ce problème-là se pose même au niveau de marchés passés, où vous avez des montants de marchés passés, bon, sur...
Oui, alors quelle est la proportion de ces dépenses, pour ne pas parler de la proportion des dépenses des opérations électorales, entre la passation du marché et les dépenses hors passation du marché, hors marché public?
Oui,
donc... En termes de pourcentage, qu'est-ce qui a beaucoup plus consommé?
En termes de pourcentage, c'est 65%. 65%, oui.
65% pour les marchés publics.
Pour les marchés publics et 35% hors marché public. Hors marché public. Mais si vous voulez revenir sur les opérations, si on veut aller dans les détails, il faut savoir qu'au départ, on avait prévu pour le fichier électoral, la révision, on avait prévu 400 millions. Et puis 526 millions pour tout ce qui est lié au... au scrutin, à l'organisation du scrutin présidentiel, aux législatives nationales et provinciales. Maintenant, si vous voulez savoir qu'est-ce qui est passé par les marchés, donc la passation de marché, et qu'est-ce qui est passé, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, que 65% de ces 652 millions, 65% sont passés par les... pour ces marchés de passation de marché, et encore que c'est plus des autorisations spéciales qu'ils ont reçues que vraiment un véritable processus de passation de marché. C'est-à-dire que au total, peut-être 20% des biens acquis. Mais,
alors, je ne sais pas si à votre niveau, vous, observatoire des dépenses, vous avez eu à analyser également la décision de la CENI de passer de bulletins de vote à la machine à voter, qui semblait être une opération quand même idéale pour réduire sensiblement les coûts des opérations. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui?
Vous pensez que la machine à voter va réduire les coûts? Vous pensez qu'il va réduire les coûts? Non, la machine à voter reste... Il y a 105 machines à voter. Et le calcul est simple. Ils sont acquis à un prix donné. Allô?
Voilà. Oui. Donc, je crois que nous allons y revenir. Le temps peut-être d'ouvrir les standards et appeler ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, qu'ils peuvent également participer à ces débats. Et nous attendons également un des représentants de la CENI, en l'occurrence, l'honorable Jean-Pierre Kalamba, pour en dépendre. 09 97 06 63 30 ou encore les 09 97 06 49 69.
Parole aux auditeurs.
Alors Didier, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour Didier. Didier, vous êtes avec nous? Alors, on prend Christian qui est à Bandundouville. Christian, bonjour.
Bonjour, JR, et bonjour à l'invité.
Voilà, Christian, quelle est votre contribution?
Merci de la parole accordée. JR Lungembo, je crois que, personnellement, je vais considérer le travail abattu par la CENI comme étant une dissertation. Il n'a que trois parties, l'introduction, le développement et l'inclusion. Alors, la CENI ayant déjà fait l'introduction, et elle est déjà presque à la fin du développement, et lentement, mais sûrement, elle tend à chuter vers la conclusion. Et donc, ici, elle doit vraiment faire des sommets pour aboutir à la conclusion, parce que sans cette conclusion, le travail ne sera pas considéré. Et étant donné que toutes ces trois parties sont doivent être considérées de manière concomitante, nous ne pouvons pas considérer l'un au détriment de l'autre. Et donc, c'est là, qu'est-ce que je veux dire par là? S'il s'avère que dans 55 jours, comme vient de le dire l'invité, et que les chiffres aient avancé, que la CENI n'aura pas justement ces chiffres auprès du gouvernement, que la CENI fasse recours à ses partenaires traditionnels. Ici, je vais citer notamment l'Union européenne, la MONUSCO et tant d'autres. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas arriver à la conclusion qui est les élections au 23 décembre. Car, il faut comprendre que si aujourd'hui nous avons une crise, cette crise est éminemment politique. Et donc, notamment, c'est parce qu'il n'y a pas eu organisation des élections à la date qui suit. Et du coup, le gouvernement qui est aujourd'hui en place, il y a crise de légitimité. La population a maintenant besoin de renouveler les institutions, toutes les institutions confondues, de renouveler les animateurs afin de donner un autre soulagement pour pousser, pour mener à bien les développements du pays. Et donc, la CENI doit vraiment chercher, justement, à recourir vers les partenaires pour ne pas faire perdre.
Didier, pardon, Christian, est-ce que vous ne pensez pas que les 289 millions qui restent, ça ne posera pas un problème pour le gouvernement? Au regard du rythme de décaissement.
Oui, si cela ne posera pas problème au gouvernement, alors que la CENI parle. Parce que à chaque fois que la CENI va garder silence, le gouvernement va peut-être mettre la main dans la pâte de manière en fait, difficilement. C'est maintenant la CENI de faire pression au gouvernement, de lui dire, ben voilà, moi j'ai déjà fait ma part, et ben ça me reste autant. Financez-moi pour que je finisse mon travail.
Restez un peu en ligne, Christian, le temps d'accueillir le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba. Bonjour, monsieur Kalamba, bonjour.
Bonjour, mon frère. Je salue le professeur qui est avec vous. Je salue les auditeurs de Okapi.
Alors, nous rappelons que vous êtes le rapporteur de la CENI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment se présentent aujourd'hui les budgets de la CENI?
Merci beaucoup. Nous commençons d'abord par recadrer les choses. Parce que il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas chercher le beurre et l'argent de beurre. À ce stade, la CENI, si nous devons entrer à parler finance, à parler passation de marché, à parler l'argent en espèces, nous risquons d'amener la confusion dans la tête de ceux qui nous suivent. Ceux qui nous suivent, ce sont des Congolais qui ont besoin des élections le 23 décembre 2018 pour accéder à l'alternance démocratique et civilisée. À ce stade, la CENI vous dit qu'après même la tripartite entre CENI, CENSA et gouvernement, la question du financement ne se pose pas parce que les partis concernés, c'est-à-dire le gouvernement qui doit remettre l'argent à la CENI, se sont mis d'accord et ils ont démontré qu'à ce stade, après avoir décaissé les 400 millions qui concernaient la révision du fichier, c'est derrière nous. Et qu'actuellement, le gouvernement avait déjà versé à la CENI plus de 230 millions. Et la CENI vous dit, preuve matérielle, c'est le fait que tout le nécessaire pour l'organisation des élections à ce stade est déjà à la disposition de la CENI, quoique une partie flotte sur l'eau vers les points d'achèvement. C'est ainsi que, par exemple, la nuit d'aujourd'hui, la CENI a reçu déjà plus ou moins 40 conteneurs, 48 conteneurs, à partir de Matadi, c'est son président qui y était, qui doit être rentré à Kin déjà avec une vingtaine. Et que la partie de ce qui concerne la kit bureautique pour le bureau de vote, la totalité des 61 conteneurs sont à notre disposition, les 6 là. Mais entrer, amener les Congolais dans les débats des 50 millions parce que le gouvernement n'a pas comme mode d'opération la liquidation d'argent. Quand nous sommes arrivés à la CENI en 2013, nous avions trouvé que les bulletins de vote qui ont servi aux élections de 2011 n'étaient pas payés. Donc pour la CENI, ce qui importe et qui intéresse les Congolais n'est pas la liquidation en cash de l'argent, mais dès que le gouvernement peut prendre les engagements et que le matériel nécessaire lui est donné, la CENI considère que le gouvernement s'est acquitté de sa part, à elle de faire le reste. C'est dans ce sens que nous pouvons aider ceux qui nous suivent à
oui ou non,
il y aura les élections
oui.
Et entrer dans les débats de 100 millions
voilà, alors... de demi. Oui, mais Monsieur Kalamba, parce que comme la CENI l'a dit à elle-même, toujours, c'est la transparence du processus. Vous avez reconnu qu'effectivement, la CENI n'a reçu jusque-là que 600, autour de pratiquement 600 millions de dollars. Si mes calculs sont bons, 400 millions à peu près pour les opérations d'enrôlement et puis les 230 millions que le gouvernement a pu décaisser en vous suivant. Alors donc, vous les rapports de l'ODEP, vous les partagez avec les 652 millions. Mais le problème maintenant se pose avec les besoins qui restent par rapport au rythme de décaissement du gouvernement. Est-ce que les gens peuvent avoir leur mal en patience, pas de crainte qu'il y aurait effectivement des élections malgré cette impasse budgétaire? Parce qu'avec les 55 jours ouvrables qui restent.
Merci beaucoup. C'est là où nous devons rester à écouter ceux qui sont concernés. Mmh. Ceux qui sont concernés, les budgets de la CENI ne concernaient pas seulement les trois élections directes. Les budgets concernent la totalité des élections. Nous en avons 11. N'oubliez pas qu'après les trois élections directes, il en reste deux importantes, qui sont les élections des conseillers de secteur qui interviendront vers 2020. 2019, 2020 pour terminer les derniers. Donc, les budgets de 1 milliard 300 millions qui va être réduit, mais j'ai entendu déjà les profs mettre en doute que les machines ne réduiront pas, n'entreront pas dans ce débat. Donc les budgets ne concernent pas les 55 pour dire 1 milliard 300 moins 600, il resterait 600. Non, on a terminé l'enrôlement. Avec les mêmes fichiers, on doit faire les élections jusqu'au bout.
Oui.
Et maintenant, au moment où nous restons, même si bien même j'ai pu accepter ce que dit le prof, qu'il reste 280. Mmh. Mais les 280, si vous prenez ne fût-ce que 280 comme si c'était destiné à payer la main-d'œuvre, divisé par 600 000 électeurs, vous allez faire 400. Alors que les 280, si cela est vrai, qui reste, ça va servir à acheter les carburants à mettre dans des camions et ça va servir à payer plus ou moins 600 000
agents
temporaires qui pourront prester. Donc, ce n'est pas de la mer à boire.
Oui.
Tant que le gouvernement a déjà fait ce qu'il pouvait aller au-delà de 600, comme vous l'avez dit, 1000. Mmh. Parce que quand nous parlons même de cet argent, nous allons jusqu'à considérer que le gouvernement est incapable, alors que ce n'est qu'une rubrique, parce que le budget de la CENI n'est pas seulement le budget des opérations, parce que les 1 milliard, ceci. Mais on oublie que le gouvernement donne simultanément à la CENI l'argent de fonctionnement, les budgets de rémunération et les budgets d'investissement. Vous voyez par-ci, par-là, à Kinshasa, ici, nous sommes en train de construire les 6 antennes, comme on le fait à Wamba, à Walungu, à Kananga, si vous passez, vous trouverez qu'on construit. Mais entre-temps, la CENI qui vous dit, le gouvernement me donne, au-delà de l'argent des opérations, mais donne d'autres argent que vous ne connaissez pas.
Alors, alors juste une question de curiosité avant de vous libérer. Oui. Alors, je sais que la CENI faisait rapport de l'exécution de ses budgets à certains partenaires, notamment la MONUSCO et tant d'autres, dans le cadre des programmes PARSEC et tant d'autres. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que la CENI continue toujours à faire le monitoring, à donner quand même, s'inscrire dans cet esprit de transparence avec certains partenaires qui, en fait, n'ont rien donné, en fait, jusque-là?
Merci beaucoup. Voilà dans quel esprit on travaille. Conformément à l'article 28, la CENI fait d'abord un rapport bilan de chaque exercice à l'Assemblée nationale et au Sénat. Avec les partenaires, nous travaillons dans le cadre de ce qu'on appelle comité de partenariat, qui siège plus ou moins 7 membres du gouvernement, les ambassadeurs des bailleurs de fonds, que vous connaissez traditionnels, je n'ai pas à les citer, la MONUSCO qui co-présidait avec PNUD. Mais il s'est posé un problème. Ce comité se tenait autour de l'appui de ces partenaires-là, Entre-temps, le gouvernement congolais mettait aussi carte sur table. Mais dès lors que les partenaires n'avaient pas exécuté leur engagement d'un contrat-programme de PNUD-PASEC signé pour 2015 à 2017, les 123 millions dont nous parlions autrefois, nous nous sommes maintenant demandé sur la nécessité de la tenue de ces cadres de concertation. Parce qu'on venait pour dire qu'est-ce que le gouvernement vous a donné, qu'est-ce que les partenaires vous a donné, qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais dès lors qu'une partie a failli, et c'est ainsi que même la directrice pays que vous connaissez, Prague, avait démissionné, était partie, et M. Alain, qui était le coopérant technique, le conseiller technique, était aussi parti. Nous étions en train de parler avant et pendant ces discussions, le gouvernement qui a pris la décision de financer celle, nous avons mis un peu en veillée ce débat
avec les partenaires. Voilà, merci
c'est
beaucoup.
C'est comme ça que du moins les techniciens de la MONUSCO travaillent avec nous. Ils sont au courant de ce que nous sommes
en train de dire. Voilà, merci beaucoup, l'honorable Kalamba. Nous vous gardons un peu en ligne avant de conclure avec vous. On écoute Christian et Sylvain et puis on revient au professeur. Christian, vous êtes à Bandundouville. Bonjour. Rebonjour, Christian.
Oui, bonjour.
Alors,
oui,
voilà.
Rebonjour.
Et complétez rapidement si vous avez un élément, oui.
Oui, bon, en fait, nous attendons que l'aboutissement de la conclusion parce que l'introduction a déjà fait l'enrôlement. Et puis, les développements.
Donc, vous l'attendez qu'il y ait les élections. Merci.
Nous attendons les élections. Mais sauf que hier, je dois préciser ici à ce qui concerne la logistique. L'année passée, en 2016...
Voilà, la logistique, nous avons abordé la question de la logistique la semaine passée. Aujourd'hui, nous parlons des finances. Merci beaucoup, Christian. Sylvain, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, chers journalistes. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi et à votre invité.
Vous avez la parole, Sylvain. Quelle est votre contribution? Est-ce que vous pensez, après avoir suivi les professeurs ainsi que l'honorable Jean-Pierre Kalamba, qu'effectivement, est-ce que la CENI ne saura faire face aux coûts d'investissement restants par rapport au montant cité ici?
Oui, monsieur le journaliste, c'est pratiquement ça l'inquiétude de tout Congolais. Parce que moi aussi, je le suis. Donc, si après de 2 ans, parce que l'ODE a parlé depuis 2016 jusqu'à dater d'aujourd'hui, il y a eu 500 millions, mais le rapport est
600 millions.
Quelque chose de 600 millions de dollars. Alors, même s'ils pouvaient nous laisser entendre que c'est 1 milliard 300 de dollars, c'est pas seulement pour les 3 scrutins de décembre, il y en a aussi les locaux, le reste pour 2019. Alors, moi, mon inquiétude, c'est que si après de 2 ans, on a mobilisé près de 600 millions de dollars. Mais à 2019, je crois que c'est au plus tard, mois de mars ou bien quelque chose comme ça, il nous reste près de 6 mois, 7 mois. Est-ce qu'on pourra aussi mobiliser la moitié de 700 millions de dollars qui nous restent là? Alors, par rapport aussi à l'opérationnalisation de ces coûts d'investissement, parce que les élections, c'est au mois de décembre. Nous sommes aujourd'hui au mois d'octobre. Il y a déjà des matériels qui sont là, oui, bon, vrai, le machine, mais il y aura aussi d'autres accessoires, les isoloirs, les urnes. Est-ce qu'avec le peu de temps qu'il nous reste ici, nous pouvons être rassurés que le 23 décembre, nous allons...
Il y aura les élections.
C'est ça mon inquiétude.
Merci beaucoup, Sylvain. Alors, nous prenons un autre Sylvain qui est celui-là qui était à Bounia. Sylvain, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre contribution, Sylvain?
Oui, d'abord, je voudrais dire que pour ceux qui surveillent ce processus électoral, la première séquence qui est exécutée par la CENI dans son calendrier repose sur 50 opérations ou soit sur 50 étapes. Puisque si vous prenez ce calendrier-là, vous partez du 31 décembre 2017 jusqu'au 23 décembre 2018. Donc nous avons pratiquement 50 opérations à exécuter. Mmh. Et si vous observez ce processus-là, c'est important, il faut qu'on précise ça. Aujourd'hui, nous sommes presque à la 38e opération. Ça veut dire le 6 octobre 2018, qui devait constituer par la CENI à préparer techniquement l'impression des bulletins de vote, procès verbaux et fiches de résultats. Et c'est ça, ce sont là les éléments qui engagent les finances. Maintenant, je suis rentré toujours dans ce calendrier-là. Lorsque vous voyez les grandes contraintes qui ont été définies par la CENI, le jour même de la publication de ce calendrier, le 5 novembre 2017. En tout cas, la CENI avait mis déjà la République ou toute la nation entière en alerte pour dire que pour se dédouaner de la non-tenue des élections, l'une des raisons majeures serait le non-respect des programmes de décaissement financier prévu pour le financement de ces processus-là. Mais là, moi, j'ai fait un petit calcul. Je m'excuse, je vais terminer par là. Un petit calcul comme un mathématicien simple. Vous prenez 1 300 000. Prenons que c'est ça le chiffre. Les opérations séquentielles se situent à 135 lorsque vous regardez le calendrier. Jusqu'aux élections, bien sûr, au niveau des communes et chefs de secteur. Lorsque vous les divisez et vous les multipliez par 50 les premières opérations, en principe, il fallait que les finances équivalent au moins 481 milliards, disons millions, 481 480 dollars. Donc c'est ça les montants qui devaient être donnés. Alors, pour être d'accord avec Kalamba qui vient de parler, en tant que patron de la CENI, effectivement, moi je voudrais que les gens comprennent. À la lire ou évoluer les choses, le calendrier n'est pas violé, à part seulement le fait qu'on n'a pas enrôlé les Congolais de l'étranger, ça c'est un problème. C'est à la CENI de se justifier au moment venu. Mais jusqu'à ce jour, la CENI est en train d'exécuter son programme. L'inquiétude résiste. Au niveau du blocage des partenaires internationaux, pour le financement de ces processus-là. Aujourd'hui, même si on ne veut pas reconnaître la question de la machine à voter, son achat et son transport, compte tenu des délais qui nous est imparti aujourd'hui jusqu'au 23 décembre 2018, en tout cas nous avons comme l'impression, et même si la nation devait accepter cette machine à voter, que nous risquons d'aller au-delà. Puisque compte tenu de tout ce qui est difficulté de transport chez nous, je me dis, même si on a réparti un espace géographique proche, milliers des achats de ces machines à voter, je doute encore. Ça, la porte de la communauté internationale.
Voilà. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, on revient à vous, professeur Florimond Mouteba. Vous êtes président de l'ODEP avec le rapport. C'est vrai, bon, le rapport n'est pas loin de ce que d'ailleurs nous disait tout à l'heure notre invité. Il dit si cela s'avérait vrai avec les 650 millions. Mais d'abord, le rapport fait des recommandations parce que quelque part, c'est vrai, bon, le cadre des concertations avec la communauté internationale n'existe plus, comme l'a dit d'ailleurs le rapporteur, mais il y a un cadre qui demeure, de consultance avec certains partenaires. Il y a la part aussi du gouvernement, il y a la prestation du marché et tout ça. Alors, qu'est-ce que vous avez formulé pour que finalement, qu'on atterrisse vraiment en douceur?
Moi, d'abord, je suis choqué par le mépris qu'on fait par rapport au principe de la transparence. Lorsque le rapporteur de la CENI nous dit il y a de l'argent, vous l'avez tous entendu, il y a de l'argent que le gouvernement donne que vous ne connaissez pas. Oui, ça c'est un problème. Les élections, nous disons qu'elles doivent être organisées d'une manière transparente, apaisée, etc. Mais ce n'est pas de n'importe quelle manière. C'est-à-dire que la question de nous construisons ceci par là, nous construisons telle autre chose par là. Tout ça, il s'agit des marchés à passer ou qui sont passés. Ça s'est passé dans quelles conditions? Donc on ne peut pas compter sur une élection transparente lorsque les opérations, la sélection de, comment dirais-je par exemple, des fournisseurs, la transparence, la publicité qu'on doit faire, notamment des marchés, d'abord des avis à manifestation d'intérêt, des appels d'offres, puis des décisions provisoires ou définitives qui sont prises pour passer, signer un contrat avec les fournisseurs, etc. Tout cela, d'après lui, ce n'est pas important. Dans les histoires de passation de marché, l'essentiel, c'est d'arriver aux élections. Mais on ne peut pas arriver aux élections dans une opacité.
Mais est-ce qu'il y a déjà eu un audit? Vous qui faites le monitoring.
Justement, un des problèmes, que ce soit pour la gestion de fil, il vient de lui dire lui-même, et c'est vrai, nous aussi nous l'avons constaté, que sur les 650 millions, une bonne partie, le gouvernement déclare 480 de quelques, les restes.
Donc il y a d'autres fonds non engagés.
Voilà, non engagés. Donc il vient de le dire lui-même. Donc quand les contrôles, oui, que ce soit pour la passation de marché, les contrôles a priori de la Direction générale de contrôle de marché, nous ne voyons
est-ce
pas.
Est-ce que l'ARMP est mise à contribution dans ce processus?
L'ARMP, pas vraiment. Il doit faire le contrôle a posteriori. Mais déjà, que ce soit pour ce contrôle a priori ou le contrôle a posteriori de l'ARMP, ça ne se passe pas correctement. La deuxième chose, c'est le contrôle qui doit être exercé par la Cour des comptes. La Cour des comptes, d'ailleurs aujourd'hui, n'est même pas en mesure
de faire ces contrôles, parce que j'en profite pour faire appel à la Cour constitutionnelle. La loi cadre qui doit, organique, qui doit permettre à la Cour des comptes de fonctionner correctement, elle a été votée par les deux chambres. Mais il est bloqué aujourd'hui au niveau de la Cour constitutionnelle, qui doit juger de la constitutionnalité de cette loi, qu'elle soit promulguée alors par les chefs de l'État et qu'elle soit mise en œuvre pour que la Cour des comptes ait les moyens de faire son travail. Mmh. L'Inspection générale des finances, ça c'est une institution qui est dépendante aujourd'hui, qui normalement devait être dépendante du ministère des Finances, mais qui aujourd'hui est dépendante de la présidence de la République et qui n'a pas vraiment les moyens de faire son travail. Le Parlement, est-ce que vous avez entendu qu'il y a une commission parlementaire qui a été mise en place pour contrôler ni où les processus de passation de marché à la CENI, ou comment les finances, comment elles sont gérées, etc. Non. Le seul contrôle qui se fait aujourd'hui, c'est le contrôle citoyen. Mmh. C'est le contrôle qui est fait par
l'ONER.
C'est le seul contrôle qui se fait. Et donc, il y a vraiment à ce niveau-là
un problème. Quelle est la solution alors? Pour que cette impasse ne puisse pas avoir un impact négatif par rapport aux élections d'ici au 23 décembre. Est-ce qu'on estime qu'il y a encore à sauver quelque chose?
Oui.
Parce qu'on a l'impression que les monitoring, ces contrôles citoyens, met des gens peut-être dans un scepticisme qui ne dit pas son nom. Donc, vraiment dans un doute total pour qu'il n'y ait pas élection.
D'abord, la CENI doit donner l'information. Je suis content d'entendre M. Kalamba. À l'occasion de ces contrôles citoyens de l'ODEP, et entre autres de cette émission, il a quand même donné une série d'informations que beaucoup de gens n'avaient pas, et c'est bien. Mais cette série d'informations-là, il faut être en contact, nous devons être en contact les uns les autres. Nous faisons le contrôle citoyen, mais il y a des informations que nous devons, qu'il doit pouvoir nous donner. Parce que la transparence, c'est quoi? C'est d'être en mesure de donner l'information complète, en temps voulu, et qu'elle soit puisse être disséminée et qu'elle aille.
Mais ce qui est plus étonnant, parce que vous travaillez, vous êtes des partenaires du ministère des Finances,
oui.
Mais je crois que vous devez avoir l'accès aux données.
Nous avons les informations qui sont sur les sites du ministère. Tout ce que nous donnons là vient des sites du ministère du Budget. Mais vous avez entendu M. Kalamba dire que
il y a donc vous faites des analyses par rapport aux données
publiées par le ministère du Budget, que nous félicitons parce qu'il publie ces données. C'est grâce à ça que nous pouvons avoir des informations, ou par les billets de ministère de Finances, direction de la Réduction des Comptes, que nous pouvons. Mais M. Kalamba vous dit, mais il y a de l'argent que le
gouvernement donne
que vous ne connaissez pas.
Voilà.
Ça pose un problème.
Voilà. On va revenir sur ça. Le temps d'écouter Didier qui est à Kinshasa et Simon Matadi. Et on va accorder la parole à Jean-Pierre Kalamba avant que nous nous séparions avec lui. Alors Didier, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Radio Capi.
Quelle est votre contribution après avoir écouté les uns les autres?
Malgré un moment donné, il y a écouté, mais je vous remercie beaucoup pour m'avoir donné parole. Ma contribution d'abord, c'est celle-ci. Vous allez vous rendre compte que l'ODEP est en train d'avancer certains arguments qui peuvent, disons, amener la population à des tensions normalement, ce qui n'est pas correct. La problématique d'organisation des élections en République démocratique du Congo est une situation qui est de la compétence exclusive de la CENI, et du gouvernement. Alors, les deux organes, c'est-à-dire le gouvernement et la CENI, n'ont pas évoqué un problème de financement des élections. La CENI elle-même, qui est censée exécuter ou encore réaliser ses différentes dépenses, ne dit pas qu'elle a un problème de financement, de financement des élections. Elle rassure d'ailleurs que les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre 2018. Mais nous sommes surpris quand l'ODEP avance des arguments que nous voilà, pour le moment, la CENI n'a pas réussi ce qu'elle devait nécessairement recevoir pour organiser les élections, ce qui supposerait que la tenue effective des élections le 23 décembre n'est pas possible. Ce qui n'est pas du tout correct. Pourquoi? Parce que la CENI est en ordre et la CENI dit effectivement par le biais de ses organes, ou par le biais de Jean-Pierre Kalamba, qu'elle est en train de recevoir régulièrement ce qu'il faut pour
Voilà. Alors là, vous avez rejoint le point de vue de Sylvain qui parlait des 50 opérations à exécuter. Et jusque-là, la CENI l'a exécuté 38, donc c'est déjà un pas de géant. Donc les problèmes ne se posent pas. Mais le vrai problème aujourd'hui, Didier, c'est cette impasse. Comment arriver à surmonter cette impasse budgétaire? C'est là où les esprits et plusieurs experts en économie tournent un peu leur ménage pour savoir où trouvera l'argent dans les 55 jours ouvrables qui restent. Voilà, c'est ça la grande question. Simon, vous êtes à Matadi. Bonjour, Simon.
Oui, bonjour. Bonjour à la radio Capi et bonjour à tous les auditeurs qui me suivent de travers le monde.
Quelle est votre réaction, Simon?
Oui, ma réaction, entendre tous les intervenants, j'ai l'impression comme si la CENI est prise en otage par les politiciens. De telle enseigne que la CENI ne sait plus faire des choses de manière indépendante et qu'elle est bloquée. Parce que vous voyez tout ce que la CENI fait. C'est une commission indépendante. Elle devrait être publiée à la vue de tout le monde. Même tout ce qui doit être fait. Parce que dans l'allure où vont les choses, si nous prenons en termes de 55 jours, même si nous prenons 60 ou plus, ça devient pratiquement impossible de l'argent qui n'a pas encore été décaissé. Parce que la population congolaise est à plus de 40% analphabète. Prenons l'exemple de chez nous ici au Congo central. Si nous, la CENI pense des choses comme il voit la ville-province de Kinshasa, la CENI se trompe. Nous ici, les milieux ruraux semblent être plus dominants que les milieux urbains. Dans les milieux ruraux, même les téléphones, on ne sait pas encore les manipuler. Et il faudrait totalement sensibiliser sur la machine à imprimer ou à voter. Parce que nous serons devant des analphabètes, devant des illettrés. Le vote est pour une journée, 8 heures du temps. Et chaque bureau de vote a autant d'enrôlés. Nous risquerons nous-mêmes, par notre façon de faire, de créer déjà un conflit.
Oui, donc si je comprends bien Simon, pour vous, la sensibilisation à elle-même, ne serait-ce pour les habitants de Congo central, ça peut prendre aussi, ça a un coût sérieux, et s'il faut compter à travers le pays, il y a des coins qui n'ont pas encore bénéficié de cette sensibilisation. Alors par les temps qui restent, ça serait pratiquement impossible, et c'est des coûts énormes et très salés que la CENI pourrait mettre, disponibiliser pour arriver au résultat. Donc c'est cela.
Oui, oui, parce que ce n'est pas facile de sensibiliser les gens jusqu'au recoin. Et il faudrait prendre des jours. À part des jours, il faut mettre des moyens. Et il faut les moyens qui consisteraient à communiquer avec la population. La population, vous savez, elle est pauvre, elle est dans les activités quotidiennes, journalières. Il faudrait les persuader pour que ces jours, 2 ou 3 jours, qu'ils viennent suivre comment on les fait. Mais à la lire où vont les choses, si le déploiement sera coincé au jour des scrutins, ça sera vraiment
impossible. Merci beaucoup.
Parce que dans tout ceci, ce qui importe, c'est le vote et que les gens aillent voter. À supposer que les gens iront voter après avoir effectué, parce que chez nous, il y a des gens qui font 5, 10 kilomètres pour aller voter, 15 voire même. Alors, il
va les nombres d'heures qu'il faut compter dans le bureau.
Prendre la machine.
Merci beaucoup.
Tout ce temps n'est pas prévu.
Voilà.
Vous voyez, nous trouvons comme
voilà, si la Simon
veut jouer à un jeu qui pouvait embraser le pays.
Merci beaucoup, Simon Tiloulou, d'avoir appelé des Matadi. Ingénieur Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Gilles.
Quelle est votre réaction?
Oui, et moi je pense que ces débats ne devraient pas avoir lieu, à mon humble avis. Les gens sont en train de parler de ces sujets, et comme si nous nous réveillons aujourd'hui dans mon village natal, que peut-être vous ne connaissez pas, et qu'on veut parler du budget. Mais tout a été planifié. Moi je pense que la responsabilité revient à la CENI. Est-ce que nous avons déjà reçu un seul message de la CENI, criant qu'il n'a pas de fonds? Nous avons été avec Nanga une fois, c'est Radio Capi. Nous avions bien dit que la responsabilité lui revient. Tant que la CENI ne se plaint pas, écoutez, le décaissement, la vitesse de décaissement, le calendrier tel qu'il a été proposé, ce n'est pas ça l'affaire du peuple. La CENI a la totale responsabilité des élections. J'interpelle une fois de plus tous ceux-là qui se préoccupent des déclarations des politiciens. Les politiciens disent des choses pour leurs intérêts. J'avais dit à M. Nanga sur le plateau que est-ce que vous serez, si vous vous rappelez, c'était même la question que j'avais posée à M. Nanga, est-ce que vous serez capable de nous dire un jour que le peuple congolais aujourd'hui, je vous dis que les choses ne marchent plus du point de vue financement. Quand Nanga verra que l'aiguille est tout rouge, il le dira, nous ne devons pas avoir des suspicions. Si le Congo aujourd'hui compte 80 millions de personnes, ce n'est pas les 80 millions qui se sont enrôlés, c'est une quarantaine de millions qui se sont enrôlés. Et, mais c'est hier, ne devons pas dire aux gens que les quarantaine de millions doivent tous voter. Moi, je vous dis, moi, j'ai été enrôlé à Lubumbashi où je pars régulièrement.
Si, au moment du vote, donc si je comprends bien Gaston, pour vous les problèmes de financement ne se poseraient pas dès lors que Nanga lui-même ne s'est pas exprimé. Revient à la CENI. À la CENI. Merci beaucoup. Voilà, alors on revient à Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI. Mais monsieur Kalamba, vous êtes encore en ligne.
Je suis là, mon ami.
Alors, réaction avant de vous libérer. Est-ce qu'aujourd'hui, comment la CENI, parce que c'est vrai, les uns évoquent les fonds non engagés, d'autres parlent de cette impasse budgétaire. Est-ce que vous pensez vraiment sortir du bout du tunnel avec cette impasse, à compter avec 55 jours ouvrables? Est-ce que c'est possible? Et si jamais le gouvernement n'est pas en mesure de vous donner cet argent, maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
Merci beaucoup. Je remercie mes compatriotes. Je suis un peu heureux que la compréhension commence à gagner notre peuple et notre population. Je suis content que notre affaire de Congo central nous appelle à un devoir que celui de qui n'appelle la responsabilité. On nous laisse faire au lieu de perdre le temps dans les débats. L'autre évoque le problème de sensibilisation qui est un problème réel, qui est un devoir que nous devions chercher à remplir. Même si en relativisant un peu, nous pouvons dire, mais quand les mêmes mamans analphabètes qu'on évoque à longueur de journée se trouvaient, découvraient les grands volumineux bureaux dans les Tchango ici, qui les avait déjà sensibilisés avec ça. Et c'est ça qui est primordial, nous appeler à faire une forte sensibilisation pour qu'une grande partie, si pas 80 ou même 100%, puisse être informée de l'usage des machines à voter. Parce qu'il y en a qui nous disent, qu'est-ce que vous faites des 15 recommandations des Britanniques pendant que les mêmes personnes disent nous ne voulons pas de la machine. Alors à quoi a servi de réfléchir sur les recommandations si on ne veut pas de la machine? Parce que les recommandations, c'est pour réconforter et rendre opérationnelles les machines. Maintenant, la responsabilité d'organiser, c'est ce qui est vrai. Mais il est aussi vrai que les profs s'occupent beaucoup plus de l'orthodoxie comptable, procédurale, et ainsi de suite. Mais il y a ARMP et DGCMP qui gèrent les marchés publics, qui n'est pas le problème de ce jour, qui nous donne toujours à toutes ces opérations-là des certificats de non-objection, c'est-à-dire la CENI est en ordre, même conformément à notre article 52, et l'audit, il est prévu qu'à chaque opération, la Cour des comptes puisse faire l'audit et la Cour le fait sur demande du Parlement qui est destinataire de nos rapports. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas. Cette inquiétude, moi aussi, je partage. Parce que même le président du Sénat, avec son bureau, nous avait demandé d'aller les rassurer et nous les avons fait au nom du peuple. Après, le président de l'Assemblée nous a aussi demandé d'aller devant la conférence des présidents qui regroupe les présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions techniques. Nous les avons rassurés qu'avec le financement qui est sous notre main, nous avons le nécessaire pour organiser les élections le 23. Effectivement, j'ai suivi beaucoup de nos frères qui disent que c'est ça l'essentiel. Mais comment on est arrivé à avoir ça? Même si nous sommes allés voler, ce n'est pas grave, mais du moins nous sommes...
Ben voilà. Bon, je crois que pour raison de transparence, monsieur Jean-Pierre Kalamba, comme les ministères des Finances publient les données, je crois que il était quand même important que la CENI publie aussi quand même par respect de la population. Bon, j'imagine. Mais en tout cas, merci. À moins que vous ayez un dernier mot, mais sinon on va vous libérer. Merci de votre disponibilité. Vous avez encore un dernier mot, monsieur Jean-Pierre Kalamba?
Oui, le dernier mot, c'est l'assurance.
Qu'il y aura élection le
20. Un effet de guerre ou quelque chose. Jusqu'ici, la CENI travaille dans ces 50 jours qui restent pour qu'il y ait les élections.
Voilà.
Merci. Nous avons intérêt à voir l'alternance dans ces pays.
Dans ces pays.
Nous, aussi, nous voulons sortir par la grande porte.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Kalamba. Nous rappelons que vous êtes le rapporteur de la CENI. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup.
Voilà, alors on revient à vous. Nous avons les nécessaires pour les élections. Donc, finalement, ça vient contredire quand même les rapports de l'ODEP. Hein.
Même si nous devons aller voler. Vous avez suivi. C'est là où vraiment le bas blesse.
Donc que la population ne s'occupe pas de l'origine
même
de
cet argent. Même si nous devons aller voler. Non, là, je pense que là, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une élection démocratique, nous le supposons, et que même ceux qui, des compatriotes qui disent que non, c'est pas l'affaire du peuple, mais c'est l'affaire du peuple. L'argent qui est donné par le gouvernement à la CENI, c'est l'argent du peuple. Et ceux qui vont, les souverains primaires, qui va investir le prochain président de la République, les prochains députés, c'est le peuple. On ne peut pas imaginer que l'on puisse faire une élection sans impliquer la population. Quel est le rôle de l'ODEP? Quand on dit non, on ne parlait pas d'argent, non. Nous parlons de l'argent qui est l'argent du peuple. Même s'il venait de la communauté nationale,
c'est l'argent du contribuable
congolais. Il est donné au nom du peuple, du peuple congolais. Notre rôle, c'est de faire le contrôle citoyen que nous devons faire. Notre rôle, c'est d'indiquer là où ça ne va pas, en tant que peuple, ou en tout cas émanation du peuple, de dire non. On ne peut pas donner de l'argent en allant contre la LOFIP, la loi donc sur les finances publiques.
Mais ce qui étonne plus d'un professeur, parce que nous lisons le rapport de l'ARMP et des DCMP de 2014-2017 qui parle de l'acquisition des véhicules terrestres pour la CENI, et la passation des marchés, recrutement d'un fournisseur de technologie, et parle encore de l'acquisition de 97 véhicules et fourniture des kits d'enrôlement. Donc on peut dire qu'on a quand même mis à contribution l'ARMP.
En partie, on a, disons, comme j'ai dit, à peu près, il faut compter 20%. 20% des marchés qui ont été passés d'une manière normale, n'est-ce pas? Mais le reste...
Mais non. Le vrai problème, c'est l'audit.
Le vrai problème reste l'audit, c'est-à-dire à la fois les contrôles qui doivent être faits par le Parlement, la DGSMP, l'ARMP, la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances. Faut pas que, comme dit notre ami frère Kalamba qui dit non, même si on va voler. Mais oui, il faut aller contrôler ça. Il faut aller faire l'audit.
Ça, c'est une façon de dire, mais je crois pas qu'il voit, le gouvernement ne va pas aller voler.
Non, mais déjà qu'il y a des fonds qui sont engagés, là, non engagés. Alors, les 289 millions, seront-ils aussi des fonds non engagés? Ça viendra d'où? De quelle manière? Dire aux gens de ne pas s'intéresser...
L'essentiel de trouver quand même ces fonds non engagés et d'organiser les élections.
Non, de les trouver correctement. Vous savez, ne faisons pas comme disait le président Mobutu, Yibamouké, etc. Voler, c'est voler, n'est-ce pas? Enfreindre la loi sur les finances publiques, c'est enfreindre la loi sur les finances publiques. Enfreindre les lois sur la passation de marché, c'est enfreindre la loi sur la passation de marché.
Et pour c'est une occasion de rappeler aussi que le budget, c'est prévision et recettes.
C'est une loi.
Il y a les recettes et puis les dépenses.
Exactement.
Donc ça réclame.
C'est la loi des finances de l'année. Au-delà, vous avez la loi cadre, la LOFIP, et puis vous avez la loi des finances de chaque année. Donc enfreindre la loi, que ce soit la LOFIP ou la loi de finances de chaque année, c'est enfreindre la loi. Et on ne va pas faire une élection dans ces conditions.
Avant de conclure, on va écouter quand même Roland Alboumbashi et Félicien à Kinshasa. Roland, vous êtes avec nous, Alboumbashi, bonjour.
Oui, Pierre, bonjour à vous, bonjour à nos deux invités et à tous les compatriotes qui nous suivent à l'instant.
Quelle est votre réaction?
Je vais aller trop vite pour gagner mon temps. Vous savez, le problème que nous sommes en train de parler aujourd'hui, merci énormément à cette organisation qui a pu mettre la main sur cette problématique. Je me demande, je m'interroge, aujourd'hui, si nous nous sommes retrouvés que l'année passée il n'y a pas eu d'élection, c'était aussi à cause des financements. Et qu'il y a eu en fait le CENSA qui était habilité de contrôler à chaque instant avec le gouvernement la CENI pour voir ses besoins. Aujourd'hui, je m'interroge, quel est le rôle de CENSA? On ne comprend plus rien. La deuxième question que je me pose, d'une manière constitutionnelle, le pouvoir est donné également au Parlement pour contrôler la CENI. On ne comprend plus rien. Le finance qu'on parle aujourd'hui, j'ai bien suivi M. Kalamba qui nous calme, qui nous apaise. N'oublions pas que l'alternance que nous parlons n'est pas seulement au sommet de l'État, n'est pas seulement la présidence de la République. On revoit aussi sur toutes les entités. Le gouverneur qui doivent également, donc les élections de gouverneur, de députés provinciaux. Si jamais que ce financement ne s'est pas n'arrive plus.
Ça sera un problème. Merci.
Quelle est le garantie que la CENI nous
donne? Merci beaucoup. Merci, Roland. Voilà. L'État peut être d'accorder également la parole, Roland. Merci. Vous avez posé des inquiétudes qui tiennent la route. Et puis, Félicien, qui intervient. Félicien, bonjour.
Bonjour, bonjour aux invités. Bonjour à tous les auteurs de Radio 4.
Votre réaction?
Ah oui, mais je dirais que la façon dont la CENI a fonctionné jusqu'à aujourd'hui, elle a fonctionné comme un électron libre. Il n'y a eu ni des parlements, ni les censeurs ou quoi, pour le contrôler ou à qui il doit rendre compte. Mais c'est l'argent des contribuables congolais à qui on doit rendre compte à tout moment et dans une gestion transparente. Et les élections, même si ça doit avoir lieu le 23, ça sera plus des élections. On attendait des élections crédibles, transparentes, apaisées et démocratiques. Ça sera seulement des élections, comme on les a toujours fait. Et c'est pas ça que les élections que les Congolais attendaient. Et c'est pas ça les élections qui peuvent nous sortir de la situation où nous sommes. Bien qu'ils soient en train d'éclaironner, ça sera la constitution du pouvoir.
Voilà.
Démocratique, je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas ça que le peuple
attend. Le peuple attend. Merci beaucoup.
J'ai perdu.
Merci beaucoup, Félicien. Alors, on va conclure avec vous. Quelles sont alors les recommandations que vous avez formulées dans ces rapports, Monsieur Florimont? C'est vrai, votre souci, c'est que qu'il y ait la transparence, et qu'on accorde aussi l'importance à l'audit, hein, de cette affaire, afin que la population, et qui a contribué pour qu'il y ait des élections, qu'elle sache quand même l'argent qu'elle a mis à la disposition de l'État, comment on l'a utilisé.
Bon... Moi, je pense qu'il ne faut pas banaliser les principes de base de la gouvernance. D'autres diront bonne gouvernance, mais c'est la gouvernance. Il ne faut pas banaliser cela. Parce qu'en fait, si nous voyons les problèmes que nous avons aujourd'hui, qui sont la conséquence de plusieurs gouvernances datant des années 60 jusqu'ici, ce sont des problèmes essentiellement des gouvernances. Si aujourd'hui, on nous présente un budget qui est de 5,9 milliards de dollars au Congo, pendant qu'il y a des pays comme le Nigeria qui ont des budgets de 500 milliards de dollars, c'est des problèmes de gouvernance. Alors, moi, je suis choqué sur cette banalisation des questions de la gouvernance et pour une organisation comme la CENI de parler de cette manière-là de la gouvernance financière et budgétaire. De cette manière-là, je suis vraiment très, très, très choqué. Mais bon, n'empêche que je reviens sur les recommandations que nous faisons, c'est que même, c'est pas tard, même si dans 55 jours, que les organes qui peuvent auditer la CENI le fassent, qu'on sente le Parlement, qu'on le sente. Qu'on sente aussi, par exemple, le Premier ministre, lorsque, il y a des marchés, parfois, des appels d'offres internationaux, qui sont donnés sur base de procédures comme ça spéciales, le Premier ministre devrait aussi réagir. La RMP et la CENI elle-même, il faut qu'elle respecte donc à la lettre les procédures de passation de marché public, qu'elle publie en temps voulu son plan de passation de marché, les DAO, les différentes décisions, ainsi de suite. Donc nous pensons qu'il faut améliorer quand même la gouvernance budgétaire et financière de la CENI pour que nous puissions aller réellement vers des élections. Et il n'est pas tard, je pense, de faire un contrôle donc institutionnel, un contrôle qu'il soit du Parlement peut-être, par exemple, pourquoi pas qu'il vienne de la RMP donc a posteriori. Oui, ils doivent le faire. Que la Cour des comptes et les moyens de pouvoir aussi contrôler ces processus, enfin du moins au moins la partie financière. Donc nous pensons que on ne peut pas, comme disait l'autre auditeur tout à l'heure, nous allons arriver à 23 à une élection comme ça. Oui, effectivement, on peut arriver à cette élection comme ça, avec de l'argent qui peut venir de on ne sait où. Mais nous pensons que pour bien faire, il faut respecter les règles de gouvernance. Et la CENI doit être la première à le faire parce que c'est une institution d'appui à la démocratie et doit être la première à respecter donc ces règles-là.
Florimond Mouteba, président de l'ODEP, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de partager ces moments ensemble avec les auditeurs. Nous disons également merci à tous les auditeurs qui ont participé à ces débats. Merci aussi à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Jean-Claude Tiala, Pierrot Elamegi et Martin Sebujangwe. Cette émission vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro.